C'est la fin de l'origine, de toute faute. Et c'était quoi la fin du premier homme? C'était de dire à Dieu, la loi, c'est ma loi, c'est pas la tienne. Et c'est ça la définition qu'Elohim yodait au bala. Qu'est-ce que le serpent a dit au premier homme? Et Midrash dit, il n'y a aucune parole mensongère dans la Bible. Même les paroles du serpent. Hein, personne ne ment dans la Bible. Hein, même pas le serpent. Hein. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ça va. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'a dit le serpent au premier homme? Vous serez comme Dieu quant à, en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. C'est, si j'osais employer ce terme, ce n'est pas dans le sens classique, c'est l'humanisme. C'est-à-dire l'homme est la mesure de toute chose. C'est moi l'homme qui décide ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Et c'est ça la faute. C'est ça la faute. Je sais qu'il y a une loi, mais ce n'est pas ta loi, c'est la mienne. Et c'est en cela que je suis en faute vis-à-vis de la loi. Parce que je décide, moi homme, moi créature, comment doit être la loi. Est-ce que vous avez compris? Donc. Et alors, il en résulte donc ceci. Nous sommes en réalité créés libres, donc donnés au risque de la faute, et par conséquent, on nous doit tous les sursis qui aménagent la possibilité du repentir. Et voyez en quoi la sensibilité religieuse juive va dès le début être différente de la sensibilité religieuse chrétienne. Le drame, c'est qu'on lit le même livre, apparemment. En réalité, ils le lisent en grec et en latin d'abord, et nous le lisons en hébreu. C'est un drame, parce que finalement, beaucoup de juifs eux-mêmes croient qu'en fin de compte, il y a un ensemble judéo-chrétien. Et c'est un faux concept. Il n'y a pas d'ensemble judéo-chrétien. Il y a les juifs et il y a les chrétiens. Et les chrétiens ne sont pas des juifs et les juifs ne sont pas des chrétiens. Il y a eu historiquement les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les juifs qui ont fondé le christianisme. Est-ce que c'est clair la différence? Et c'est une sensibilité radicalement différente. Or, les juifs qui ont fondé le christianisme, je prends l'exemple de Paul comme exemple, c'était pas des juifs hébreux. Qu'est-ce qu'était Paul? C'était un romain de culture grecque, d'origine juive. Je sais pas si vous comprenez celui-là. Bon, alors on revient au sujet. Tout ça, ça va s'arranger quand le Vatican reconnaîtra l'État d'Israël. Mais c'est une histoire ancienne. Vous savez que ça veut dire Vatique, c'est très ancien. Mais dans tous les cas, voilà le problème, le sursis. Alors effectivement, nous assistons à la fin du sursis. Les gens de Sodome et Gomorre ont beau être les pires fautes pécheurs de l'histoire, en tant que créatures, ils sont à l'abri d'un sursis. Mais pourquoi ce sursis a duré si longtemps? Alors là, va se dévoiler un thème de l'enseignement de la Torah qui est très important. Je voudrais prendre, par le biais d'un exemple. Dans la Kabbalah et l'enseignement suivant, Job, c'était Terach, le père d'Abraham. Et la Gemara, déjà, dans Bava Batra, situe Job à chaque époque charnière de l'histoire. Et alors, avec le thème que, je ne vais pas rentrer dans cette Gemara, je reviens à ce que j'ai dit à propos de Job, il y a des époques de l'histoire de la morale et on est tzaddik juste dans l'homme de vertu, dans un certain monde de la vertu, et voilà qu'il y a un progrès des valeurs de la vertu, il se dévoile que celui qui était tzaddik dans le temps ancien devient rachar par rapport aux critères du temps nouveau. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Alors voilà comment dit la Kabbalah. Job, c'était Terach. Et Terach était tzaddik de sa génération tant qu'Abraham ne s'est pas circoncis. Dès qu'Abraham s'est circoncis, Terach Job a commencé à souffrir. Pourquoi? Parce qu'il est resté, il est devenu préhistorique. Ça veut dire que quand le tzaddik du monde qui vient apparaît, ce tzaddik-là disqualifie tous les tzaddikim d'avant. Est-ce que vous avez compris le problème? Alors il commence à souffrir, il ne comprend pas pourquoi. Mais pourquoi c'est l'histoire de Job? Parce que le texte du livre de Job est très clair. Job n'a fait aucune faute. Lisez bien le texte du livre de Job. Job n'a fait aucun mal. Lorsque Dieu, en fin de compte, se révèle aux amis de Job, les théologiens, qui ont, eux, les thèses de théologie classique, « Si tu souffres, c'est que ça fait une faute. Hein » Alors Dieu se révèle à eux, il dit « Pourquoi vous avez mal parlé de mon serviteur Job ?» Job n'a fait aucune faute. Le texte ne dit pas qu'il a fait du bien. On ne sait pas s'il a fait du bien. Mais en tout cas, de faute, il n'a pas fait. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, lorsque il y a une mutation dans la découverte des valeurs morales, ceux qui continuent à se satisfaire de l'état antérieur de la moralité deviennent des justes souffrants. Vous avez compris l'histoire de Job, comment elle est expliquée par ce... Et alors, c'est le problème. Tant qu'Abraham n'était pas Abraham, il y a encore le sursis pour Sodome et Gomorre. Mais dès qu'Abraham est Abraham, Sodome et Gomorre sont disqualifiés. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est la source, sociologiquement, de l'anticléricalisme et de l'antijudaïsme. Je vais vous donner un autre exemple qui va éclairer cela. Mais pour ça, je voulais d'abord vous rappeler un petit peu la préface du livre de Job. Le premier chapitre du livre de Job, c'est la clé du problème de la souffrance du juste. On nous raconte l'histoire idyllique d'une famille heureuse, riche, avec des enfants beaux, et chaque jour, on faisait la fête chez un des enfants. Vous vous rappelez du premier chapitre? Relisez-le. Mais à la fin de la nuit, de fête, Job offrait au matin un sacrifice d'expiation quant aux fautes éventuelles que ses enfants auraient peut-être fait dans leur festin. Regardez le scrupule. Ça veut dire que Job est juste, mais il n'est pas sûr de sa descendance. Alors il commence à souffrir. Il y a beaucoup comme ça de pères de famille. Ce sont des gens parfaits, apparemment, mais voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, ils ne sont pas sûrs de leurs enfants. Alors ils souffrent. Est-ce que vous avez compris? Ce caractère dramatique de la souffrance d'un juste qui n'a pas fait de faute, ce n'est pas une faute d'acte, c'est une faute d'être. Vous voyez, Terah est capable d'avoir été le père d'Abraham, mais il n'est pas capable d'être le fils d'Abraham. Alors il souffre. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? C'est pas clair. Oublie. Tu réétudieras l'année prochaine. Combien tu as d'enfants? Tu as le temps. mais réfléchissez à la formule. Vous verrez, au début de la paracha de Toldot, comment le verset s'exprime. Elle est Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham au lit de Yitzhak. Voici les engendrements d'Isaac, fils d'Abraham, Abraham engendré Isaac. Mais on attendait les engendrements d'Isaac, pas les engendrements d'Abraham. Qu'est-ce qu'on attendait? Un Isaac qui engendrerait Abraham. On est encore en surplace, Abraham engendre Isaac, Abraham engendre. On attend qu'Isaac engendre Abraham. Alors réfléchissez dans ce sens-là. Okay? Bon, j'ai parlé peut-être trop vite. Oubliez, mettez une parenthèse dans votre mémoire ou de côté. Je reprends le fil de l'analyse. Et d'ailleurs, dès que Isaac est capable d'engendrer Abraham, Jacob apparaît. Et regardez à quel point c'est difficile qu'Isaac engendre Abraham. Hein? Parce qu'il n'arrive qu'à engendrer Jacob et Esaü. Et alors, quand Jacob s'appelle Israël, Abraham est justifié. Ça y est, c'est clair l'idée? Bon, je reviens. C'est plus qu'une idée, c'est notre histoire. Je reviens au problème. Il faut se méfier de Job, du Satan, parce qu'il se cherche un Job. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? qu'est-ce que c'est que le Satan dans ce récit? C'est l'accusateur public au tribunal d'en haut. Dès qu'il y a un doute quelconque, il est formulé par le Satan. Et c'est pourquoi on a peur de lui, parce qu'il dit la vérité. C'est lui qui, au tribunal, met en forme les doutes cachés. Vous avez compris le problème, okay? Alors c'est terrible, l'accusateur public. Okay? Voilà quel est le problème. Le premier chapitre du livre de Job explique pourquoi Job souffre. Pas parce qu'il a fait du mal. Il n'a jamais fait de mal. Parce qu'il n'arrive pas à passer au degré supérieur du tzaddik. Alors c'est le tzaddik devenu préhistorique. Je vais vous ouvrir une petite parenthèse. Quelque chose que j'ai déjà cité au nom du Rav Nachman de Breslav. Lorsque Moïse, c'est la Gemara qui enseigne ça, lorsque Moïse est allé recevoir la Torah, il avait des questions préalables à poser à Dieu. En particulier la question « Mado ar tzadik vetovlo, tzadik verarlo, racha vetovlo, racha verarlo. » Pourquoi il arrive cela, qu'il puisse y avoir un tzadik et il a du bien, et un tzadik mais qui a du mal? Vous voyez que c'est le problème du livre de Job. Okay? Et pourquoi il peut arriver cela qu'il y a un racha qui a du bien et un racha qui a du mal? Et là, il y a différentes réponses. Il y a deux réponses classiques à cette Gemara, je vous cite rapidement. Le tzadik qui a du bien, c'est un tzadik parfait. Le tzaddik qui a du mal, c'est pour la petite part d'imperfection qu'a un tzaddik pas parfait. C'est un tzaddik, mais il n'est pas parfait. Alors, il est guéri par le mal qu'il a en tant que tzaddik. Le rachat, vous avez compris pour le rachat. Le rachat qui a du mal, c'est un rachat rare. Et le rachat qui a du bien, c'est un rachat pas complètement rachat. Et il n'y a pas, sauf les cas exceptionnels, de perversion exceptionnelle, il n'y a pas de rachaïm qui n'est pas une petite vertu. Il y a des gangsters qui aiment leur chat. Ils sont bons pour les animaux. Et alors, on les récompense dans ce monde-ci, et puis c'est réglé pour le monde à venir. Le tzadik, c'est l'inverse. On les punit dans ce monde-ci, c'est bien pour le monde à venir. Ça, c'est la première réponse qu'on donne à cette question. La deuxième réponse est plus difficile. Et je vous la cite, mais sans l'étudier. Le rachat qui a du bien, c'est un rachat, c'est rare. Le tzadik qui a du bien, c'est un tzadik fils de tzadik. Et le tzadik qui a du mal, c'est un tzadik fils de rachat. Le rachat qui a du bien, c'est un rachat fils de tzadik. Le rachat qui a du mal, c'est un rachat fils de rachat. C'est très difficile à comprendre. Mais ça va plus loin dans le problème. Le Rav Nachman de Breslav enseigne de la manière suivante. Le tzadik qui a du bien, c'est le tzadik qui vit dans un temps où la halakha est comme lui. Où le bien selon Dieu, c'est le bien selon lui. Alors il est non seulement tzadik, mais heureux. Est-ce que c'est clair? Parce qu'on peut être tzadik, mais hérétique. C'est pas comme ça que Dieu pense. Et pourtant, il est tzadik. Le rachar est le tzadik qui a du mal, c'est un tzadik, mais la halakha n'est pas comme lui. Alors le rachar qui a du bien, c'est le rachar du tzadik que la halakha est comme lui, et le rachar qui a du mal, c'est le rachar du tzadik que la halakha n'est pas comme lui. Vous avez compris l'explication de... Et au fond, c'est la même explication à des niveaux très différents. Et regardez, faites une micro-étude de la sociologie israélienne et vous verrez, il y a des tzadikim, la halakha n'est pas comme eux, leur sha'im, Dieu préserve. Il y a des tzadikim, la halakha est comme eux, leur sha'im sont en vente. Vous avez compris ce que je veux dire? Non, alors oubliez. On revient au sujet. Voilà ce qui se passe. Tant que Abraham n'est pas circoncis, Sodome et Gomorre est en sursis. Dès qu'Abraham est circoncis, il y a d'autres facteurs qui ont joué. Le progrès moral chez Abraham déclenche la condamnation du rachat. C'est pourquoi les rachaïm n'aiment pas les tzadikim. Parce que c'est à cause des tzadikim que les rachaïm souffrent, sont disqualifiés, sont jugés. Vous avez compris le problème? Alors, sociologiquement, j'ai étudié ça d'ailleurs en ethnologie, c'est l'explication du mécanisme de l'anticléricalisme. Les gens n'aiment pas le curé. Parce que quand le curé est présent, ils sont disqualifiés. Ils n'aiment pas les rabbins, parce que quand le rabbin est présent, l'autre est disqualifié. Ils n'aiment pas les tzadikim, parce que c'est à cause du tzadik qu'ils se sentent rachat. Vous avez compris le proverbe? Alors c'est quoi je vous ai mis ensemble? J'ai étudié ça en laboratoire. L'anticléricalisme et l'antisémitisme, ça va dans le même sens. On n'aime pas les juifs, parce qu'à côté des juifs, on est disqualifié. On n'aime pas les curés, parce qu'à côté des curés, on est disqualifié. C'est faux d'ailleurs, mais c'est des mécanismes psychologiques pathologiques. Okay? Mais voilà comment ça fonctionne. Vous avez compris le... Parce que si les paroissiens du curé connaissaient les angoisses, les affres du curé, ils se rassureraient, etc. Bon. Eh bien, revenons en tout cas au sujet. Il y a une scène qu'ils ont racontée dans la Torah. Lorsqu'au moment de la révolte de Corée, de Korah, Dieu s'adresse à Moïse pour dire à Moïse, eh bien, je vais les détruire, les ennemis. Alors, les ennemis de Moïse disent, tu veux notre mort, à Moïse. Quand même. Il suffit que Moïse soit là pour que Korach soit disqualifié. Si Moïse n'était pas là, Korach, c'est un grand homme. Mais voilà, Moïse est là. Alors, Korach, c'est un rachat. Et il faut se méfier. C'est pourquoi les tzadikim doivent être modestes. Parce qu'ils ne sont pas modestes, ils le payent. Ils le payent. Parce que je ne sais pas comment vous dire ça en français. Il y a un mot hébreu qui indique cela. Yohara. Yohara, traduisez-moi Yohara en français. Le matuvu religieux. Quel? Ma? Pas plus. Autain, oui, mais plus. Je vous donne un exemple de Yohara. Vous savez qu'il y a des différences dans Shulchan Aruch suivant les rites. Par exemple, chez les Sfaradim, c'est absolument interdit d'avoir les tissus d'or. C'est Yohara. Ça veut dire, regardez-moi, je suis tititeux. C'est pire que nécessiteux. Alors, au contraire, chez les Ashkenazim, c'est un titre de gloire d'avoir les titres d'or. Mais pour les Sfaradim, c'est interdit. Et voilà un exemple. On appelle ça Yohra. On n'a pas le droit de... Je ne sais pas comment dire en français. Je savais, mais j'ai oublié. Snobisme, mais plus que ça.
M'as-tu vu, c'est très bien.
M'as-tu vu, oui. Oui, c'est ce genre de comportement. Regardez comme je suis pieux. Hein? Ça me rappelle comme on disait en arabe. N'a pas passé comme je suis bien. Oui, ça c'est très désagréable. C'est du mauvais goût absolu. Faire pieux pour faire pieux. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Mais vous avez compris le... il va y avoir une espèce de bon goût, je sais pas, de réserve, voilà, chercher le terme, qui sonne l'authenticité. On est ce qu'on est, et puis ça va de soi qu'on est Shomer Mitzvot. Mais se mettre un masque de sorcier pour dire « Regardez-moi, je suis juif », c'est trop. Il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Hein. Est-ce que vous avez compris le fait de la pauvre ? Et malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui jouent à ça. Et alors... Il s'étonne quand le retour de volant arrive. Mais alors, on prend les choses au plus haut. La présence du tzaddik sur terre disqualifie tout le monde. Donc le tzaddik doit se cacher. C'est peut-être ça, c'est maintenant que j'y pense, mais c'est peut-être ça la notion du tzaddik nistar. Pourquoi le tzaddik nistar est plus grand que le tzaddik niglé ? Précisément parce qu'il est caché. Le tzaddik nistar, c'est un tzaddik que personne ne sait qu'il est tzaddik, même pas lui. S'il le savait, il serait orgueilleux. Vous avez compris ? Ça va jusque dans le vocabulaire sociologique contemporain. J'aime, pas moi, c'est mes maîtres qui m'ont appris ça. On n'a pas le droit de se dire orthodoxe. Quand on sait qu'est-ce que c'est, ça veut dire l'étymologie d'orthodoxe. Celui qui suit la voie droite. Hein ? Orthodoxia. Qui suit la voie droite du grec. Oui, à la rigueur, on dit, je fais tous mes efforts pour essayer de dire je suis orthodoxe, j'ai ma carte d'identité orthodoxe, c'est un orgueil épouvantable. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Ils font ça naïvement, ingénument. Hein. Mais c'est de Yorla. Hein. Bien, vous avez chez les Albigeois, je crois, la communauté des parfaits. Voilà, on va fonder une synagogue, la synagogue des parfaits. Les parfaits au chocolat. Il y a une espèce de mauvais goût. C'est un peu dans ce sens-là. Top.
Tout à l'heure que avant la circoncision d'Abraham, les Sodome étaient en sursis.
Oui.
On ne peut pas comprendre. Alors, comment ça se fait qu'Abraham a lutté pour sauver Sodome ?
Très bien, c'est un autre problème. Je vais vous répondre parce que c'est un problème très important. Je vais aller plus loin. Quand on lit ce texte-là, on voit que Abraham discute pied à pied avec Dieu. Et s'il y en a 50, et s'il y en a 45, et s'il y en a... Et j'ai entendu même des grands hommes dans leur... Je pense que c'est un peu trop... Un peu de l'abstraction pure et simple. Il y a peut-être un mot plus précis, c'est plus qu'abstrait, c'est théorique. Hein, dire, mais pourquoi Abraham s'est arrêté à 10? Il aurait été allé jusqu'à 1. Et s'il y en a un seul? Il y en avait 9, il n'y en avait pas 10. Il y avait Lot et sa famille, ça fait 9. Hein. Et encore, quel drôle de tzadikim c'était, mais c'était des tzadikim par rapport aux autres. Eh bien, en réalité, on est émerveillé de la charité d'Abraham qui a prié pour des gangsters. Okay? Pour qui il prie? Pour des gangsters. Ça m'appelle les ratés de la Croix-Rouge lorsque la Croix-Rouge intervient pour protéger les assassins. Et c'est tout juste, il reproche pas aux victimes de ne pas leur laisser à la Croix-Rouge protéger les assassins. Combien de fois c'est arrivé avec les avions détournés et que la Croix-Rouge n'était pas contente que Tsahal était intervenu pour sauver les victimes? Vous n'êtes pas faire. Laissez-nous faire. C'était la Croix-Rouge. Non seulement la Croix, mais rouge. Bon, remarquez, à côté, il y a la Croix sans. Mais en tout cas, mais dans tous les cas, il faut savoir une chose. Abraham... C'est le juste de la vertu de charité et que ça. Et la vertu de charité est absolue. Si elle n'est pas absolue, elle n'est pas elle-même. Par conséquent, c'est normal qu'Abraham va, dans ce dialogue avec Dieu, il va sauver les criminels. Mais Dieu lui donne une leçon de morale. Il lui dit, je vais t'expliquer pourquoi dans ce cas-là, le jugement ne peut pas être comme tu dis. Il y a la charité, il y a le jugement, il y a la justice. Abraham n'est pas encore Israël. Il est la vertu de charité, mais totale. Et c'est pourquoi fonctionner comme Abraham, c'est pas Israël. Mais si on n'avait pas eu Abraham, Israël ne serait pas arrivé. Il faut d'abord Abraham. Et ensuite Isaac, c'est le juste opposé. C'est le juste de la rigueur absolue. Et c'est pas encore Israël. Il faut qu'arrive Jacob qui unit les deux. Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, et dans cet ordre. Ça, on étudiera un jour, si vous voulez plus en détail, c'est pas tellement sujet, mais je réponds à votre question. Alors ici, la Torah nous explique ce qu'il ne faut pas faire. C'est la vertu qui demande de plaider pour le criminel, mais la justice demande de le condamner. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, il y a des fois des conduites suicidaires par vertu exagérée. C'est ce à quoi Israël est occupé actuellement. Une conduite suicidaire par vertige de vertu exagérée. Il se regarde dans la glace, regardez comme je suis beau. Je suis un fils d'Abraham. L'autre aussi. Allez. Mais tout ça, ça va éclater. Mais qu'est-ce qui fonctionne là? Ce qui fonctionne, c'est la vertu d'Abraham. Et d'ailleurs, tous ces congrès qui se font, nous les fils d'Abraham, c'est pas pour rien qu'on cite Abraham. C'est comme ça qu'Abraham fonctionne. D'ailleurs, il fonctionne comme ça dans la paracha. Abraham, dans cette paracha, va protéger Ishmaël jusqu'au bout. Hein? C'est Sarah qui intervient et dit, ça va pas, okay. C'est dans cette paracha. On va le lire tout à l'heure si on y arrive. Bon, vous avez compris le problème. Donc c'est normal qu'Abraham plaide comme ça, mais c'est normal que Dieu lui répond, pas question. Voilà, il ne faut pas oublier l'autre côté du récit. C'est-à-dire, on oublie toujours cela, qu'en réalité, Abraham a reçu une leçon de morale. Mais Abraham a témoigné de la vertu de charité. Mais c'est son rôle. Et donc, ce que je citais tout à l'heure, qu'Abraham aurait dû aller encore plus loin. Et Dieu leur aurait dit, ça ne va pas Abraham, mon monde ne peut pas fonctionner avec toi. Vous avez compris le problème? Je vais vous dire, c'est un enseignement de la Kabbalah très important que j'ai étudié avec le fils du Rav Ashlag. C'est un enseignement du Rav Ashlag. C'est qu'il y a dans le monde des justes parfaits qui ne savent que donner. Et alors quoi, ils ne reçoivent pas? Ce sont des êtres exceptionnels, et c'est très rare, de qui on apprend comment donner. Mais surtout, il ne faut pas faire comme eux. Parce que si on se prend pour des justes de cette manière, on devient fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne fais que donner, tu n'as jamais mangé, tu n'as jamais bu, tu ne respires pas, tu n'es pas né. Et non, en général, ils sont pas nés normalement. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est comme notre ancêtre, Ève, c'était une côtelette pas née. Avant de naître, bien sûr. Vous voyez comment on lit la Bible? On se rend pas compte. Bon. Alors, ça c'est les tzadikim qui ne savent que donner. Si vous voulez, l'art pour l'art en morale, okay, la vertu gratuite. Je donne, recevoir, Dieu préserve, ça c'est pas moral. Okay, alors tu manges, tu vis pas. Okay. Alors, prendre ça au sérieux, c'est être fou. Mais alors pourquoi ces tzadikim existent? C'est pour nous apprendre comment on donne. Parce qu'il n'y a qu'une seule manière de donner. Ne faire que ça. Sinon, est-ce qu'on donne vraiment? Je vous raconte une fois une petite anecdote qui m'a fait comprendre ça de l'histoire israélienne, et après je vous parle et pourquoi l'air chahine. Moi, je ne me suis jamais occupé de Macbeth. Je suis de Macbeth. Il n'y a que les Écossais, Macbeth, Mac, je ne sais pas. Bon. De ramasser de l'argent, quoi. Mais une fois, après la guerre des six jours, j'étais quelque part à faire un séminaire. Un de mes amis d'enfance qui me rencontre, on tombe dans les bras l'un de l'autre, comment vas-tu? Ah, qu'est-ce qu'on pense à vous? Je vais te donner un chèque pour les blessés de la guerre de Kippour. Bon, pour les blessés de la guerre de Kippour, je vais transmettre. Il me donne son chèque. Et puis, pris de scrupules, je dis, ça va pas te manquer au moins? Tu non, penses-tu, je vais au sport d'hiver la semaine prochaine. Alors, je dis, ah, tu vas au sport d'hiver la semaine prochaine, reprends ton chèque. Il a compris la leçon, il a ajouté un zéro, comme quoi il pouvait. Alors là, j'ai pris son chèque. C'est-à-dire, s'il donne un chèque pour les blessés de la guerre de Kippour, mais après il va au sport d'hiver, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si c'est clair. Et alors, la charité doit être la vraie charité. C'est pourquoi la halakha donne des limites. Ça, tu donnes, moins que ça, ce n'est pas la charité. Plus que ça, c'est la folie, dit la Gemara. Et celui qui donne plus que le maaser, c'est qu'il est fou. La Gemara en clair. La Gemara donne trois critères de la folie, si vous voulez, je vais vous les donner. Mais j'ai peur de faire peur à des gens qui ont tout le monde est normal. Celui qui a tendance à se promener dans les cimetières. Il faut tout de suite aller voir un psychiatre. Celui qui va dehors la nuit tout nu et n'a pas froid. Et puis, celui qui ne ressent pas le froid, bon, ça se soigne. Et puis, celui qui donne trop en charité, c'est qu'il est fou. Vous savez qu'il y a des comportements de un peu mystiques, mais de mystiques un peu frelatés, qui fait qu'après un bon repas, on sort le chéquier et puis on dort. Et après, on fait les comptes du ménage et il ne reste plus rien. Il y a des générosités suspectes. Bon, c'est, pour la Gemara, c'est très clair. Si on laisse aller, ça mène à la folie, parce que c'est déjà de la folie. Bon, pourquoi je vais insister ça? Oui, pour le... Ça veut dire, donner, c'est donner tout. Celui qui vraiment qui veut donner, eh bien, si c'est sérieux, il donne tout. J'ai eu une fois une grande discussion en milieu judéo-chrétien, un colloque entre juifs et chrétiens. Les chrétiens disaient « donner sa vie pour l'autre ». Il y avait un philosophe juif qui s'est levé indigné et qui dit « Mais de quoi vous parlez? Arrêtez-vous de donner votre mort pour l'autre, pas votre vie. » Je vois, c'est clair. Et c'est vrai, ils donnent leur mort pour l'autre, pas leur vie. Mais vous donner un exemple. Pour la Gemara, le véritable sacrifice, c'est le sacrifice du Fils. Parce que si on ne sacrifie pas ce qu'on tient le plus, qu'est-ce qu'on a sacrifié? Mais c'est ça que la Torah interdit. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, la religion naturelle, c'est normal. On va faire un sacrifice, mais le sacrifice normal, c'est le sacrifice du Fils. Mais vous voyez à quel point c'est païen. C'est ça la religion naturelle. Alors, c'est que la Torah intervient et enseigne que c'est une abomination. Parce que la véritable vérité morale, c'est l'unité des valeurs. Là, c'est la charité et que ça. Et alors, c'est catastrophique, les drames que la charité et que ça a déclenché dans le monde. C'est la tragédie de la vertu exagérée. La vertu exagérée, c'est plus méchant que le mal. Bon, je ne sais pas s'il y a des psychologues parmi vous, mais vous devinez les abîmes d'implication. J'en ai un exemple. Il y a une méchanceté qui consiste à adopter comme principe que l'autre est sûrement un ange. C'est très méchant, parce que ce n'est pas un ange, c'est un homme. Alors tu vas l'attendre au tournant de la première peccadille et tu vas le condamner. Comment? Tu n'es pas un ange, tu n'as pas honte? Mais par quoi ça a commencé? Par la pire des méchancetés. Je t'attends au tournant, je te juge comme ange, alors que c'est un homme. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? C'est la pire des méchancetés. Comment? Tu n'es pas parfait? Vous avez compris le problème? C'est méchant, ça. Mais ça explique énormément de scènes de ménage, d'ailleurs. En tout cas, pour revenir au... j'attendais pas ça. Pour revenir au sujet, faire une manière pour le rachat. On a besoin d'Erchaïm, dont tout l'être consiste à recevoir pour apprendre comment on reçoit. Parce qu'il faut apprendre comment on donne, il faut apprendre comment on reçoit. De qui on va apprendre? Alors nous avons des modèles. C'est un grand mystère. Pourquoi dans notre monde, il y a des tzadikim et des rechaim? On a besoin d'eux pour apprendre ce qu'ils ont à nous faire apprendre, mais surtout ne jamais faire comme eux. Et il y a effectivement, pour ceux qui ont appris l'histoire, on peut l'apprendre à travers la littérature d'ailleurs, mais pas vraiment l'histoire, mais ça donne une idée. Il y a des tzadikim, c'est très rare, mais ça existe, qui ne sont là que pour donner. On ne sait pas comment ils reçoivent, c'est mystérieux. Mais vraiment, ils ne sont là que pour donner. Deux, on apprend comment on donne. Il y a des Rechaim qui ne sont là que pour recevoir. Deux, on apprend comment recevoir. S'il n'y avait pas des gens qui ont envie, jamais on aurait inventé les frigidaires. Il y a des gens qui ont envie. Alors ils ont inventé les frigidaires. Et grâce à eux, on peut boire glacé Chabat. Bon, alors vous voyez à peu près Alors, rappelez-vous les termes en hébreu. C'est Ratzon Lashpia, ça c'est le tzadik. Toute sa volonté est de donner, de déverser. Et Ratzon et Kabel, ça c'est le rachat. Toute sa volonté, c'est de recevoir. Alors on a besoin des tzadikim pour savoir comment donner, on a besoin des rechaim pour savoir comment recevoir. Mais nous sommes, nous, les créatures normales, les benonim, et alors, il n'y a que deux possibilités, deux attitudes. C'est l'histoire de toute la civilisation, divisée en quatre dimensions. Ceux qui donnent envie de recevoir, ça c'est la morale naturelle, qui n'est pas encore l'idéal. Parce que le point de chute, c'est de recevoir. Je donnerai ma vertu et je recevrai un fauteuil au paradis. Il dit, donne toujours ta vertu, après on verra. Et puis, la vraie solution d'après la Torah, c'est recevoir en vue de donner. Et recevoir le plus possible pour pouvoir donner le plus possible. Ce qui fait que les deux tendances, qui nous crée, qui nous constitue, l'altruisme et l'égoïsme sont toutes les deux satisfaites. Mais dans l'ordre, il faut recevoir pour donner. Donne en vue de recevoir, c'est la morale naturelle. Je vais vous dire la formule des latins, en latin, do ut das. Ça ressemble à du russe. Je donne en vue que tu donnes. Do ut das. C'est le contrat de la religion naturelle. Okay. 3 kilos de psaumes pour avoir une place au paradis. J'ai donné mes psaumes dans mon paradis. Alors pour ça, il faut un mignon. Paradis. Mais finalement, ce que le Rav Asher enseigne, et je veux dire pourquoi je vous ai cité ça, c'est que l'ordre, c'est recevoir en vue de donner. C'est pourquoi il y a dans le tempérament juif la volonté de recevoir. Mais si ça s'arrête là, alors c'est le matérialisme grossier. Mais c'est en vue de donner. Vous avez compris ? Recevoir, il y a des accusations antisémites, un diagnostic de la moitié du comportement juif. C'est vrai que le juif a appétit de recevoir. Et parce que c'est le commencement de l'appétit de donner. Voilà, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais vous avez compris l'idée. Alors, voilà pour la deuxième scène, le sursis de Sodome et Gomorre. On avance. Alors, nous arrivons là à une scène de la famille de Lot rescapée de la destruction de Sodome et Gomorre. Vous prenez à partir du verset 27 du chapitre 19. C'est un autre morceau du récit. C'est la scène des deux filles de Lot avec leur père. Alors, ils sont rescapés. Et quel temps il me reste plus de temps. Ça fait rien. Je m'appesantirai un peu ici. Vous suivrez la fin du récit, je vous enverrai le principe. Ce sont des récits qui montrent un progrès de la moralité chez Abraham et une dégradation d'une caricature de moralité chez Lot. C'est une sorte de caricature de la moralité d'Abraham. Et cette scène est la suivante. Il y a ici une scène messianique à l'envers. Je cherche un terme, c'est tragique d'ailleurs comme scène, mais c'est une tentative de sauver l'humanité, de sauver les engendrements de l'humanité, alors qu'on croit que toute l'humanité a disparu, qu'il reste que Lot et ses filles. Alors il y a une initiative des filles de Lot pour sauver l'avenir de l'humanité d'avoir des enfants avec leur père. C'est une scène messianique dans la défigure. Est-ce que c'est clair ? Et vous verrez d'ailleurs en étudiant en détail cette histoire que les deux filles de l'autre n'ont pas la même conduite du point de vue de la morale. L'une, c'est vraiment en vue de sauver l'humanité, comme je viens de le dire. L'autre, c'est la luxure, pure et simple. Alors, c'est la différence entre Amon et Moab. Mais va naître une lignée de la famille d'Abraham. L'autre était le fils du frère d'Abraham, okay, cette famille sortie de Chesim, qui va caricaturer l'identité d'Israël, les Ammonites et les Moabites, et qui seront en rivalité messianique pendant tout le temps de la Bible contre Israël. Et à partir de ce que je vais dire maintenant, je ne vous cite pas des sources traditionnelles, mais je crois que ça continue. Cette rivalité n'est pas achevée. Je vous l'ai cité d'ailleurs une fois. La région des Ammonites, c'est la Jordanie, Amman. Amman s'appelle Rabat Amon, la capitale de Amon. Rabat Amon. Et effectivement, la rivalité messianique à qui appartient à Israël, c'est un problème nous avons avec les Jordaniens. Est-ce que c'est clair ? Oui, je résume tout ce qui se passe actuellement, mais c'est clair. Lorsque les Jordaniens demanderont la manne, vous savez ce que ça veut dire en arabe ? Demander la manne ? Alors on leur donnera la manne du désert. Bon. Et voilà donc ce qui se passe. Vous voyez, ce comportement de l'ombre portée d'Abraham, si j'ose dire, Abraham imite, Lot imite Abraham et dans la défigure, dans le mal. L'hospitalité d'Abraham, c'est la vertu dans le bien. L'hospitalité de Lot, dans la débauche. Et quelle sera l'hospitalité de Lot ? Donner ses filles à l'étranger. Etc. Alors, vous voyez ce qui se passe. juste après, progrès de la moralité chez Abraham, de nouveau cette scène où le patriarche dit de sa femme qu'elle est sa sœur. Vous voyez, le contraste, l'échec de la moralité chez Lot et la réussite de la moralité chez Abraham. C'est-à-dire, cette même capacité anthropologique de l'être frère, c'est ce qui se cherchait dans la famille d'Abraham, qui est capable d'être frère. Et là, il y a le faux frère et le vrai frère. Être frère dans l'immoralité, ça c'est l'option de Lot. Être frère dans la moralité, c'est l'option d'Abraham. Alors voilà, si vous voulez, le déroulement de ce récit. Au point de départ, le fait que Abraham va réaliser l'alliance de la circoncision, ça cristallise l'accélération de tous ces événements. Tout se déclenche. Alors la promesse de la naissance du fils d'Abraham va s'accomplir. Jugement de Sodome et Gomorre, séparation définitive entre Lot et Abraham, etc. Si nous avons plus de temps, on verrait ça très en détail sur les versets. C'est un peu le travail que vous allez faire vous-même. Top. Quand même, il reste 2 minutes, puisqu'on a déjà fait 8. Si vous avez une question là-dessus.
Et pourtant, de Lot, va naître le Mashiach, enfin, de moi.
Tu résumes trop. C'est-à-dire de Lot va naître Ruth.
Ruth la Moabite.
L'ancêtre de David. Bon, là, il faudrait un peu plus de temps, mais je vais quand même essayer de répondre. Lot n'est pas n'importe qui. C'est une étincelle de l'identité de la famille d'Abraham qui est enfouie sous une écorce d'impureté. Et alors, vous relirez ça au fait qu'Abraham, alors qu'on s'était déjà séparé, Abraham s'était déjà séparé de Lot. Abraham va protéger Lot de loin. Parce qu'il protège cette chance de l'âme de Ruth, je vous cite le Midrash, qui est dans la lignée de Lot et qu'il faut sauver. C'est pour sauver l'âme de Ruth que Abraham va protéger Lot. Si c'est un thème très délicat, j'aurais préféré avoir 1 heure pour parler que de ça. Vous voyez, c'est ce qui était le plus près qui est devenu le plus loin. Alors dans ce plus loin, il y a la trace du plus près de l'origine. Alors Ruth, c'est celle qui revient de plus loin, mais elle ramène avec elle tous les autres, mais parce que c'est elle qui était la partie de l'identité d'Israël qu'Israël avait perdue avant le commencement de son histoire. Cette lignée de Lot aurait dû être dans Abraham. Elle s'est séparée en portant, là je vous cite le Zohar, une étincelle de sainteté qui est dans l'écorce de l'impureté de la débauche. Mais là-dedans, qu'est-ce qui travaille? Qu'est-ce qui est enfoui sous la cendre, si j'ose dire? C'est l'âme de Ruth. Alors Abraham va protéger Lot de loin, parce qu'il faut sauver l'âme de Ruth. Et enfin, quand l'âme de Ruth va revenir, pourquoi Ruth, c'est le modèle des convertis? Parce que c'est pas n'importe quel converti. C'est celle qui revient dans la famille d'Abraham. Et elle revient du plus loin. Elle ramène avec elle tous les autres. Alors elle est le modèle de toutes les femmes converties. Est-ce que c'est clair? Alors nous avons la même chose avec Jethro, dans une autre dimension, mais c'est d'une autre manière. Et Ruth a une place très grande dans la tradition. C'est le livre que l'on lit à Shavuot. Lorsque la Torah est donnée, alors on lit le livre de Ruth. La Torah est donnée à Israël, et on parle de ce qui revient dans Israël du plus loin où ils étaient partis. Et c'est Ruth qui sera l'ancêtre du Mashiach, parce que c'est le Mashiach qui assure la rédemption de l'universel humain. Mais en tant qu'elle est l'ancêtre du Mashiach, elle est fille d'Abraham, rentrée à la maison, si je dis. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est pas visible, parce que tout cela, c'est un thème d'identité profonde à travers l'histoire. Parce que la question commence comme ça. Pourquoi Abraham protège Lot? C'est pas Lot qui protège. C'est l'autre qui est dedans. Je veux dire, c'est l'âme de Ruth. Alors, remarquez que Yitro, Ruth, Torah, c'est à peu près les mêmes lettres. Vous voyez, Torah, vous enlevez le Hé, c'est Ruth. Vous ajoutez le Yud, c'est Yitro.
Il y a deux filles qui
sont venues. Il y a l'aînée, là. Relisez.
Oui.
Comment? Je ne peux pas vous répondre, parce que je n'ai pas le texte en tête, mais c'est clair dans le texte. Vous verrez là, celle qui a pris l'initiative la première, c'était en bonne part. Et la deuxième, c'était en mauvaise part. Mais regardez bien le texte, peut-être que je me trompe. Bien. Une, c'est l'Ishma, et l'autre, c'est l'Olishma. Et vous savez, je vais finir par une anecdote du Talmud, qui est plus qu'une anecdote, mais je sais pas quoi, comment ça s'appelle au théâtre, c'est Pirandello, à chacun sa vérité. Oui, mais je vais, okay. Et vous avez un comportement, le même, il peut être au niveau du jugement de valeur, soit tzadik, soit rachar, le même comportement. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe en réalité, fondamentalement, alors que apparemment c'est le même geste. Dans un cas, c'est pour sauver l'humanité. Dans l'autre cas, c'est pour avoir un plaisir supplémentaire avant la catastrophe. Vous voyez ce que je vous dis. Mais il faut voir cette scène dans son tragique même. C'est une fin de monde. On croit que le monde a disparu. Et voilà comment faire qu'il y ait encore des petits hommes. Il y a un seul homme, c'est noir. C'est l'autre. On va l'émigrer. C'est pour ça que j'ai pris ça noir. Pour qu'il se rende compte de rien, soi-disant. Et alors... voilà ce que raconte le Talmud. Il y avait, vous savez, au temps de l'occupation romaine, il y avait ce qu'on appelle dans le Talmud les matrones, matronita. Les matrones, c'était les tenancières de cabaret. Et alors finalement, en réalité, beaucoup de Bachur Yeshiva étaient séduits par les tenancières de cabaret. Il y en a un, finalement, qui prend son courage à trois mains, et puis il va au cabaret. Et alors, quand il est en train de se déshabiller, son tissu de katane est en train... Vous savez, c'est les tissus de katane. Les tissus lui ont frappé au visage. Il a été saisi par ça, il s'est rhabillé en vitesse, et il s'est sauvé. Elle l'a rattrapé. Il dit, moi, je ne suis pas assez belle pour toi. Il dit, non, il y a un maître plus fort que toi. Elle dit, tu ne sors pas d'ici sans que tu m'expliques qu'est-ce qui était arrivé. Je veux savoir qui est plus fort que moi. Il lui a expliqué, et alors elle a dit, je vais aller voir ton maître. Elle est allée voir son maître, elle a été subjuguée, convertie, elle a décidé de devenir normale, enfin, juive, elle était romaine d'abord. Et alors, après la conversion, elle a demandé au rabbi, donne-moi une bénédiction. Alors,